Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Graphite, vous écoutez sur 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur Internet pour avoir les émissions, toutes les émissions, parce qu'il y a les podcasts des émissions de Graphite sur le site Internet et pour vous tenir informé, bien sûr, de l'actualité de votre radio curieuse préférée, bien évidemment. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël. Je vous appelle. Ça devient n'importe quoi. Je m'appelle Jean-Noël et nous sommes aujourd'hui le 4 juin pour cette éphéméride du 4 juin. Pas mal de choses finalement. Le 4 juin 1783, les frères Montgolfier font voler la première montgolfière, bien sûr. Et c'était en Ardèche, à Annonay. Je ne savais pas que c'était à Annonay qu'il y avait ce premier vol de montgolfière le 4 juin 1783. En 1896, le premier Ford quadricycle roule à Détroit dans le Michigan, bien sûr, aux États-Unis, 1896 quand même. Plus proche de nous, 1996, c'est le vol inaugural de la fusée Ariane 5. Vol inaugural qui se solde par un échec, malheureusement, c'était donc un 4 juin. Et enfin, en 2010, le premier vol du Dragon Spacecraft Qualification Unit, c'est bien sûr l'américain SpaceX qui fait son premier vol il y a déjà 12 ans, le 4 juin 2010. Naissance le 4 juin 1891 de Léopold Vietoris. C'est un mathématicien autrichien. Alors, il a connu une certaine célébrité, notamment par sa longévité exceptionnelle, parce qu'il est mort en 2002. Donc, si vous faites le compte, 1891-2002, il est mort à l'âge de 110 ans. Il est connu comme mathématicien pour ses contributions à la topologie et à d'autres domaines. Il s'est intéressé à l'histoire des mathématiques et il publie quand même son dernier travail en 1994. Il avait quand même 103 ans. Enfin, c'est quand même un bel exemple, je trouve, de passion scientifique, notamment pour les mathématiques. Léopold Vietoris, qui a donné son nom à quelques concepts mathématiques, dont la suite de Mayer-Vietoris. C'est un outil qui permet de calculer certains invariants importants d'espace topologique en les partageant en morceaux plus simples. Vous n'avez rien compris, moi non plus, mais en tout cas dans le domaine des mathématiques, Vietoris, c'est quand même un nom assez connu. Décès le 4 juin 1973 de René-Maurice Fréchet, mathématicien français prolifique. Il travaillait entre autres, notamment en topologie, décidément, c'est un domaine assez important aujourd'hui. Et notamment, il travaillait dans les théories des probabilités et des statistiques. Tous ceux qui ont fait des cours de maths le remercient beaucoup. De René-Maurice Fréchet, qui est donc décédé le 4 juin 1973. Alors, on va parler pas mal de drones dans cette émission. C'est un peu une thématique spéciale parce que il y a plusieurs articles qui évoquent les drones. Donc, ça va être un peu notre fil rouge. Plusieurs articles depuis plusieurs semaines. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Par exemple, ce drone qui est capable d'évoluer sous l'eau, comme un peu un sous-marin, et qui peut aussi sortir de l'eau à un clin d'œil pour pouvoir voler. C'est quand même assez intéressant, et c'est un petit peu le meilleur de ce que le laboratoire de biomécanique et de robotique de l'université de Pékin est parvenu à combiner. C'est quand même assez intéressant. C'est un quadricoptère qui a été mis en place par ce laboratoire spécialisé en aéronautique et en astronautique. C'est complètement étanche et ses rotors disposent d'hélices qui sont rétractables. Elles se déploient totalement pour voler et sous l'eau, elles se rétractent pour former comme un genre de système de propulsion sous-marin. Et pour ressortir de l'eau, eh bien, elles vont s'ouvrir progressivement, mais suffisamment rapidement pour que l'appareil puisse s'extraire de l'eau et décoller en seulement un tiers de seconde, selon les chercheurs. Ils ont fait des tests et pendant cette phase de test, les scientifiques ont répété l'opération d'immersion, décollage de façon consécutive et ils ont fait cette opération immersion-décollage 7 fois consécutivement en seulement 20 secondes. C'est vrai que c'est une prouesse technologique assez intéressante et le drone sait aussi optimiser l'autonomie de sa batterie. Tant mieux, ça peut être utile. Alors c'est encore une fois en utilisant ce qu'on appelle le biomimétisme que cette amélioration a été réalisée, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de ce qui se passe dans la nature, tout simplement. Les concepteurs se sont inspirés de ce qu'on appelle le rémora fuselé. C'est un poisson qui dispose d'une surface similaire à des petites ventouses qui lui permettent de s'accrocher à un poisson hôte pour se faire transporter et économiser de l'énergie. C'est quand même assez intelligent. Et le drone, il est lui aussi équipé sur le dos d'une sorte de disque qui, par un système de ventouses, peut adhérer à de nombreuses surfaces, même rugueuses. Et donc, avec cet accessoire, eh bien, le drone peut se trouver sous un hôte sous-marin qui ne serait pas effrayé par ses retors ou par son allure. Et de façon plus plausible, ce procédé pourrait permettre au drone de s'agripper à une surface pour rester en position d'observation de façon stationnaire, ce qui peut être intéressant également. L'énergie serait dédiée au fonctionnement des capteurs et de la caméra. La même chose pourrait être réalisée en l'air sur un bâtiment ou par exemple en haut d'un mât, bien sûr. Donc on voit un petit peu les applications, par exemple militaire, qui peut être intéressante en termes d'espionnage, par exemple, également. Ce drone, donc, il peut aller sous l'eau et dans l'air. C'est quand même un vrai sujet intéressant. Les drones, bon, ça fait déjà une bonne décennie qu'on commence à en parler, mais on voit très bien que les technologies dans ce domaine-là se développe et s'améliore de plus en plus, si bien que les drones seront la thématique de cette émission Biotine aujourd'hui. Biotine, émission de science, mais également un peu de musique, bien évidemment.
Je ne veux pas obéir aux doigts et à l'œil à la voix d'un maître. Non, 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 je ne veux pas rentrer dans le moule. Je ne veux pas rentrer dans le rang. T'attends quoi? Je ne veux pas me fondre dans la masse.
Moi, je veux toucher la masse.
I touch the mass.
Je veux faire la pluie et le beau temps.
I touch the mass. Everybody hails me. Hey, I touch the mass. And you love me.
Il rentre du boulot sûrement, c'est je touche la masse. C'était Claire Diterzi sur l'antenne Graphite. Vous écoutez tous les samedis sur l'antenne de Graphite, Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On parle des drones, on parle aussi un petit peu de nos technologies de communication, bien évidemment, avec ces rapports qui nous précisent que l'Apple Store, le Play Store, on pourrait un petit peu les considérer comme des réfrigérateurs remplis de produits périmés. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête réalisée par la société Pixalate, pardon, ces rapports montrent qu'il y aurait plus d'1 500 000 applications abandonnées par leurs auteurs dans les deux boutiques d'applications. C'est-à-dire que un tiers des 5 millions d'applications disponibles seraient abandonnées. Pour arriver à ce total, la société a compté uniquement celles qui n'avaient pas connu de mise à jour depuis au moins 2 ans. L'étude montre aussi que 1 300 000 applications bénéficiaient de mise à jour au cours des 6 derniers mois. Le fait que toutes ces applications non mises à jour restent disponibles, eh bien ça engendre de gros soucis de sécurité. Les vulnérabilités qui n'ont pas été corrigées sont presque systématiques et il a même été constaté que 90% des applications disposaient de composants open source dotés de grosses failles. Alors du côté de chez Apple, étonnamment, la notion d'obsolescence n'est pas la même. La firme considère qu'une application n'est abandonnée qu'après 3 ans sans mise à jour. C'est uniquement à partir de ce délai qu'Apple commence à considérer qu'il est temps de faire le ménage. Il faut dire que selon l'étude, plus de la moitié, 58% du total des applications qui n'ont pas bénéficié de mise à jour depuis 5 ans se trouvent dans l'Apple Store. Et pour Google, c'est le même combat. La suppression de ces applications obsolètes va être réalisée à partir de la fin de l'année, nous dit-on. En revanche, Google va mettre en place une procédure qui va dépendre de la version d'Android du mobile. Et donc, si l'application sans mise à jour est décalée de 2 ans par rapport à la version d'Android de l'utilisateur, alors elle est masquée sur le Play Store. Mais voilà, 1 500 000 applications obsolètes existent. Et effectivement, on a dû télécharger, il y a peut-être pas encore une dizaine d'années, quoique pas loin, des applications à l'époque qu'on n'utilise plus, que plus personne n'utilise parce qu'elles ne servent plus, et du coup qui sont encore accessibles, entre guillemets, et qui du coup peuvent apporter des problématiques en termes de stockage, d'une part, et donc, on le dit ici dans cet article, des problèmes de vulnérabilité d'un point de vue de sécurité informatique, bien sûr. Comme on est en train de parler de tout ce qui est applications, éléments connectés ou autres, il y a un rapport du spécialiste de la cybersécurité qui s'appelle Verizon ou Verizon, j'ai jamais su comment il fallait le dire, on va le dire à la française, Verizon, et qui explique que dans 80% des cas, le piratage d'un compte provient d'un mot de passe faible ou alors facile à trouver. Alors, il y a bien sûr des gestionnaires de mots de passe qui permettent de renforcer la sécurité en mémorisant des mots de passe complexes, mais qui sont impossibles à retenir. On a tous vu ça. On nous fait des suggestions de mots de passe hyper compliqués. On ne les prend pas parce qu'on se dit on ne sait pas du tout si on va les retenir. Tu m'étonnes, on ne peut pas les retenir. C'est des trucs tellement compliqués. Donc, on va mettre un mot de passe plus simple et parce qu'on est sûr qu'on pourra le récupérer. Mais bientôt, eh bien, tout ça sera terminé. On pourra s'en remettre au fruit d'une alliance assez inattendue entre les 3 géants Apple, Google et Microsoft pour pouvoir renforcer la sécurité. Les 3 géants de la high-tech ont uni leurs forces pour intégrer ensemble une identification sécurisée et sans mot de passe, que ce soit sur les mobiles, les ordinateurs ou via les navigateurs. Ils vont faire en sorte que leurs produits prennent en charge la norme de connexion sans mot de passe du dispositif, notamment du web. Et pour cela, il y aura empreinte digitale, scan du visage ou alors un code PIN seront un petit peu les nouveaux sésames universels pour pouvoir déverrouiller l'appareil et retrouver nos données. Alors le système sera d'autant plus pratique que si on change de smartphone, par exemple, eh bien, on n'aura pas besoin de se connecter la première fois en utilisant un mot de passe ou en identifiant. Cela fait déjà un moment en fait, que les 3 sociétés ont intégré les composants pour prendre en charge ces nouvelles normes, notamment de reconnaissance de visage ou d'empreinte digitale. Mais pour le moment, il reste toujours obligatoire de se connecter au compte au moins une fois en saisissant des identifiants. Mais ça ne sera plus le cas avec le nouveau système et son identifiant unique activé par la biométrie, eh bien, il sera désormais très difficile pour les pirates de s'accaparer un compte d'utilisateur. Alors, selon les 3 firmes, eh bien, la mise en œuvre de cette norme sans mot de passe sera appliquée d'ici 1 an. Ok, donc ça va être quand même assez rapide et fonctionnera de façon indifférente, que ce soit sur un environnement Mac ou un environnement Android. Et donc, ça peut être soit avec Safari, soit avec Chrome, soit avec Windows ou alors avec Edge. Donc, du coup, on aura un nouveau dispositif qui nous permet de pouvoir nous passer des mots de passe. Des mots de passe, c'est bien ça. Ça va être voilà, assez rapide, affaire à suivre bien sûr, mais on aura véritablement des choses assez intéressantes à voir au niveau de la cybersécurité, bien évidemment, qui est un élément aussi important d'un point de vue technique. Je vous dirais que cette émission prend comme thématique les drones. Un autre cas pour combattre le changement climatique qui nécessite à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de planter des arbres pour pouvoir séquestrer le carbone, eh bien, il y a une start-up australienne qui s'appelle Airseed qui apporte une solution technologique à la reforestation, grâce à une armée de drones assistés par de l'intelligence artificielle. Cette firme australienne effectue un premier vol pour analyser le terrain et déterminer un petit peu les essences qui sont adaptées. Un drone est alors chargé avec des boules contenant chacune une graine et chaque boule est larguée individuellement à un endroit précis. Il sème jusqu'à 2 graines par seconde et il enregistre les coordonnées GPS de chacune, ce qui va permettre aux équipes d'évaluer le taux de germination par la suite. Un seul drone est capable de planter 40 000 arbres par jour avec 2 personnes pour changer et programmer l'appareil qui vole lui de manière totalement autonome. Donc cette méthode est, nous dit-on, 25 fois plus rapide et 80% moins chère que les techniques manuelles. Génial, donc les drones vont remplacer les humains pour planter des arbres. C'est une conception de la technologie qui est un peu moderne. En plus d'avoir créé des drones spécialement conçus pour transporter et larguer les graines, eh bien, la start-up australienne a apporté un soin tout particulier à la composition de ces fameuses boules qui contiennent les graines. Elles sont composées de déchets de matière organique et elles protègent les graines de l'assaut des oiseaux, des insectes et des rongeurs, tout en leur apportant des nutriments et des probiotiques pour pouvoir se développer, bien sûr. La firme s'assure également de choisir des variétés locales pour aider à restaurer la biodiversité et ne pas créer une monoculture uniquement destinée à la séquestration de carbone. Alors, cette firme australienne, qui s'appelle donc Airseed Technologies, a un projet ambitieux, celui de planter 100 millions d'arbres d'ici 2024. Alors, bien sûr, s'ils en plantent 40 000 par jour, ça va vite, mais donc du coup, leur objectif, c'est de planter 100 millions d'arbres d'ici 2024, d'ici 2 ans. Affaire à suivre, bien sûr. C'est un projet assez ambitieux, assez intéressant. Et là encore, c'est les drones qui sont derrière tout ça, bien sûr.
Préparé au Big Bang, derrière tous des clics de ouf, des pits à casquette, des big bands. Qu'est-ce qui se passe, mec? Les types scandent qu'ils vendent shit, des coups sentent le fric, descendent de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vie, on t'a Tommy Monde, top ta vidéo de Montana, Tony, pompe ton anatomie.
Vas-y, à pompe, je la
frie, pour que tous restent en vie, vos vies sont grillées. Comme la gueule dans un survêt loto, ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. La rue mon casino, comme Pacino et Pecci. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie, ça secoue sur du Mako, ça défilé de filles épilées en brouille.
Hey, mais c'est Mako, ça.
Des bouteilles de whisky se cassent, comme dans les saloons.
On dirait une scène dans Platoon, c'est la merde, frère.
J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones,
nique les clones.
J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides, retour aux pyramides après des
Royal
siècles.
Comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre, comme Rocky. Tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient bigre, merde. T'inquiète, j'ai le croquis, le plan pour les faire hacker. Allume l'herbe, pour le partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends? Je veux pas de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classe et X comme Rocco. La haine me motive, j'ai un train de plus, je conduis la loco. Motive, détache des wagons, né l'année de.
J'ai eu mon pote ilophile, pour un deal où on pouvait mettre pile au mille, un plan géant comme Shaquille O'Neal. C'était ça ou sinon, des bisous, y'a déjà autant de gars sur le filon que de frères en prison ou de pédophiles aux Philippines. Donc tranquillon, prends quelques kilos de muscles juste en cas d'attaque.
J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones,
nique les clones.
J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles.
Moi,
choc comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour 20 cents. Un défilé de 5 bands avec rien que des noirs ou un homo qui danse le pogo. avec Diskin. Gaz comme un bec benzène, moi c'est breakdance, boogie, les tiens font miskin. Je représente les miens comme Denzel, ex-rookie, frère Dean, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Les autres font rire comme Bozo, le clown se comporte comme Ozo. Je suis une félonie, anti-viking, je crée des colonies. Black Napoléon, homme caméléon, bing, on pille le pays comme une scene. On envahit Virgin, les villas et les villes, les piscines. On boit de la tequila, ma famille, mon cocon, chocon, nos ex-colons. Embrochés du cul au cou par des sexes trop longs, des tresses sous un collant dim, des teams, des textes trop longs. Je vois rouge comme les pots, parqué dans les réserves. Je couche avec les black squaw, squat d'un tipi, pire qu'un hippie. J'respire du pavot, pas vous. Je grave la vraie vie dans le pavé, comme les gars des grottes de Lascaux, comme Vasco de Gama. Je suis à la recherche d'espace vert, j'ai infiltré comme Donny Brasco dans la mafia. Donc je suis parano, speed comme Martin Payne. Sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean. Calvin Klein, je représente mon clan. J'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteurs. Je suis un king comme Martin Luther. Faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose. Faut qu'on s'arme. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Chaque rue, chaque ville, chaque pays, chaque île, chaque continent. Le ciel, l'espace, le gros cercle, le roux, la galaxie, l'univers, l'infini. Venez au KFC. Rejoins ta femme.
Retour aux pyramides, c'était X-Men sur l'antenne de Graphite. Vous parlez science et vous êtes intéressé par l'actualité, justement, dans tous les domaines scientifiques. Eh bien, alors, vous ne pouvez que fidèle à cette émission Biotine qui, depuis plusieurs années, sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h, fait un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Et on va parler d'extraterrestres. Ça fait quand même un peu plus de 60 ans que l'humanité tend l'oreille vers l'espace, à l'écoute justement des extraterrestres. Et depuis que deux physiciens de renom ont postulé que si des civilisations extraterrestres technologiquement avancées existent quelque part dans la Voie lactée, eh bien elles communiquent probablement entre elles. Mais plus de 60 ans se sont donc écoulés, il n'y a toujours rien. Rien d'étonnant à cela, c'est ce que nous font aujourd'hui remarquer des chercheurs de l'université de Pékin. D'après leurs calculs, nous pourrions avoir à patienter environ 400 000 ans avant d'avoir la chance de capter le message d'une autre civilisation. Alors le genre de civilisation qui pourrait nous faire un signe est de celle que les scientifiques appellent les civilisations extraterrestres communicantes, les SETI. En 2020, des chercheurs de l'université de Nottingham, au Royaume-Uni, estimaient qu'il pourrait exister dans notre voie lactée au moins 36 de ces civilisations prêtes à entamer le dialogue avec nous, et peut-être même jusqu'à 2900 de ces populations extraterrestres avancées. Même si tout cela reste bien sûr extrêmement incertain, eh bien les chercheurs de l'université de Pékin tentent eux aussi de proposer un modèle basé sur des hypothèses logiques pour produire avant tout une estimation plausible du taux d'occurrence des fameuses civilisations extraterrestres communicantes. En se concentrant sur deux paramètres aussi mal connus l'un que l'autre, d'abord le nombre de planètes de type un peu terrestre habitable, c'est-à-dire un petit peu des planètes comme la nôtre, et la fréquence à laquelle la vie sur ces planètes évolue vers une civilisation extraterrestre communicante. Donc il y a quand même des paramètres qu'on n'a pas encore totalement bien maîtrisés. Et puis aussi le stade de l'évolution d'une étoile haute auquel une civilisation extraterrestre pourrait apparaître. Donc, les chercheurs ont calculé un petit peu tout cela et, dans le meilleur des cas, une étoile qui doit avoir vécu un quart de sa vie avant qu'une civilisation extraterrestre émerge, et pour que chaque planète habitable autour d'elle se fasse également, eh bien du coup ils ont fait des calculs, et l'idée c'est que l'humanité n'aurait besoin de patienter que 2000 ans pour espérer établir la communication avec ces civilisations extraterrestres. Alors autant quand on nous disait qu'il fallait attendre 400 000 ans, bon là effectivement c'était un petit peu lointain. 2000 ans, ah là, ok, c'est à l'échelle humaine quelque chose d'atteignable. Alors pas à l'échelle de notre vie à nous, d'ici 2000 ans, il y a déjà longtemps que nous serons je ne sais où d'ailleurs, mais au niveau de l'échelle de l'humanité, 2000 ans, c'est pas grand-chose. Et du coup, cette estimation qui nous vient donc de cette université de Pékin est assez intéressante parce que... Déjà, bien sûr, on n'a pas de réponse définitive. Et là, on est sur des calculs complexes qui font qu'on est sur des simulations avec des marges de manœuvre qui sont quand même assez difficiles à maîtriser, bien évidemment. Mais c'est un peu la première fois qu'on nous donne une estimation, encore lointaine, bien sûr, mais une estimation de la possibilité de pouvoir établir un contact avec une civilisation extraterrestre communicante, ce qu'on appelle les CETI, pour Communicating Extraterrestrial Intelligent Civilization, donc des extraterrestres qui sont capables de communiquer avec nous. 2000 ans, c'est jouable, bien sûr, nous dit-on. Mais voilà, c'est un peu la première fois, à mon avis, depuis que j'anime cette émission, qu'on aborde ce sujet des extraterrestres d'une façon... j'allais dire optimiste, ou en tout cas avec des échéances claires quelque part, même si je pense qu'on aura la difficulté de pouvoir établir cette communication en direct sur Graphite, mais bon, à voir également, on verra plus tard. Mais voilà, une civilisation extraterrestre qui pourrait communiquer avec nous, premier contact prévu dans 2000 ans, c'est voilà, ce qui a été annoncé il y a quelques jours, et je trouvais intéressant de pouvoir l'évoquer dans cette émission, bien évidemment. On revient sur les drones, et cette fois au niveau militaire, avec donc des véhicules blindés, des chars, des lance-missiles, des canons, des mortiers. La guerre en Ukraine en ce moment est un conflit de haute intensité que l'on n'avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une école de guerre où les états-majors du monde entier découvrent parfois avec surprise que certaines technologies pouvant paraître peu sérieuses peuvent changer le cours des choses. C'est notamment le cas du drone de combat turc Bayraktar, pardon, qui est devenu l'une des stars sur le champ de bataille et un peu la terreur des blindés. C'est un drone destructeur de chars et il y a une nuée d'aéronefs hétéroclites en l'air sur la zone de front. Il y a également ce qu'on appelle le Phoenix Ghost, qui est un drone munitions spécialement modifié pour répondre aux besoins des combattants ukrainiens. Donc il y a quand même des choses qui se font au niveau des drones, et là c'est des applications concrètes sur le front de la guerre en Ukraine. Chez les Russes, pour observer les positions ennemies, eh bien, on a d'autres drones qui existent, qui sont des Orlan 10, qui ont une conception plutôt artisanale. Il y a aussi de nombreux petits drones issus du commerce, avec notamment la marque française Sparrow. Ces drones accessibles à tout un chacun, pour parfois moins de 2000 euros, deviennent des observateurs utiles et discrets, mais également des armes redoutables lorsqu'ils sont bricolés. Alors maintenant, les constructeurs civils s'y mettent en adaptant leurs modèles commerciaux aux besoins des combattants. C'est notamment le cas d'une entreprise néerlandaise qui a mis au point un drone doté d'un chargeur de type carrousel permettant de larguer plusieurs petits obus. Il y a une invention destinée à aider l'effort de guerre ukrainien. Alors, il y a des vidéos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, depuis début mai apparemment. Et ces vidéos, ces photos montrent ce qui semble être un drone commercial de type quadricoptère, donc avec les captes petites hélices. Et ce drone est équipé d'un chargeur capable d'enfermer les petits obus de mortier que l'on tire habituellement avec un fusil d'assaut. Le drone serait déjà utilisé sur le terrain, apparemment. Et puis, il y a un clip vidéo qui a été diffusé également qui montre une attaque contre un char russe. Il reçoit 4 obus de mortier largués consécutivement. Alors, ça a peu de chance d'échapper à un tel prédateur qui multiplie les occasions d'atteindre sa cible, bien évidemment. Alors, ce procédé permet aussi d'engager plusieurs cibles à partir d'un seul drone. Le largage de ce genre de munitions par drone est loin d'être une nouveauté. Cela s'est fait de façon artisanale depuis des années, notamment au niveau du Levant, où il y avait des djihadistes qui les bricolaient pour qu'ils puissent larguer des grenades. Et ça date depuis 5 ans, 2017. Une méthode à laquelle les États-Unis n'étaient pas préparés. Il semble aujourd'hui que les Russes ne le soient pas véritablement non plus. C'est d'autant plus le cas que ce procédé a été amélioré par les Ukrainiens qui parviennent à faire mouche de façon précise en créant des ailettes bien précises avec une imprimante 3D. Alors, Du côté russe, il ne faut pas croire qu'il ne soit pas bricoleur. Hein. Il y a des vidéos qui sont également diffusées sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui montrent des drones russes issus du commerce qui sont capables de larguer des grenades. Bon, c'est assez artisanal. La charge n'était pas si dangereuse que ça, mais voilà, on fait des efforts de part et d'autre. Il ne faut pas se leurrer, on est quand même dans une guerre. Finalement, ce qui est important, c'est que ces drones du commerce peuvent devenir de dangereuses machines à bombarder. Le fait que deux grandes armées utilisent toutes les deux les mêmes concepts qui ont été mis en œuvre par des groupes armés il y a quelques années à peine, eh bien, c'est un signe. On comprend mieux pourquoi la réglementation européenne fait tout pour contraindre l'utilisation de drones au-delà de 800 grammes. Cela a pour effet d'orienter l'essentiel du marché vers des drones ultra légers de 250 grammes qui sont incapables de porter une charge explosive. Mais du coup, on est en guerre, donc ce genre de réglementation risque bien sûr d'être contourné. Mais voilà, des drones grand public qui sont transformés en armes de guerre, c'est du concret, c'est en train de se faire en ce moment bien sûr.
We'll be right back.
C'était Joy Division avec Love Will Tear Us Apart sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que l'actualité de Graphite, vous la suivez sur la page Facebook essentiellement, ce qui vous permet d'être informé de l'actualité de votre radio préférée, mais également sur le site internet graphite.net, ce qui vous permet de nous écouter en direct ou en différé grâce au podcast de toutes les émissions de Graphite, bien évidemment. Parlons médecine dans cette émission avec notamment la maladie de Parkinson qui est avant tout connue pour les tremblements, la rigidité des membres et les difficultés de mouvement que tout cela induit. Mais il y a un autre symptôme plus subtil qui apparaît avant les troubles moteurs, ce sont les troubles de la parole. Petit à petit, la voix des personnes atteintes de Parkinson s'adoucit, devient plus monotone. Les chercheurs de l'université d'Arizona pensent que les corps de Lewy qui sont composés d'une protéine naturellement présente dans le cerveau et qui n'est plus évacuée à cause d'une mutation, eh bien, ces corps de Lewy situés dans les zones cérébrales impliquées dans la parole seraient responsables de cette manifestation précoce de Parkinson. Et pour éprouver leur hypothèse, ils n'ont pas fait d'expérience sur l'être humain, mais sur des oiseaux qu'on appelle les diamants mandarins, je ne connaissais pas. Et de prime abord, ces petits oiseaux qui sont originaires d'Australie, qui sont vendus notamment comme animal de compagnie, n'ont pas grand-chose en commun, bien sûr, avec les êtres humains. Mais pourtant, le cerveau des mâles, essentiellement, utilise des circuits neuronaux comparables aux nôtres pour chanter. De plus, les jeunes oiseaux s'exercent en imitant les adultes, comme un enfant apprend à parler en répétant ce qu'il entend autour de lui, notamment la voix de ses parents. Et donc, pour que les oiseaux présentent les symptômes de la maladie de Parkinson, les scientifiques leur ont injecté un vecteur viral qui contient une version mutée du gène de cette fameuse protéine qui cause cette maladie de Parkinson. Et les chants des oiseaux qui, eux, n'avaient pas été traités a été comparé aux oiseaux qu'on a rendus atteints de la maladie de Parkinson. Et ça, on a fait ça sur la durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'injection. Et on a fait une analyse du chant grâce à un logiciel qui a analysé leur ton, leur amplitude, leur durée. Les premiers résultats indiquent que la présence de cette fameuse protéine qui n'est pas évacuée à cause d'une mutation et qui est donc, nous dit-on, responsable de la maladie de Parkinson, eh bien la présence de cette protéine dans le cerveau altère le chant des oiseaux. Il devient plus court, moins ample, à l'image un peu de ce qui se passe chez les humains. Et à 3 mois après l'injection, les oiseaux ont plus de difficultés à commencer leur chant. Ces expériences ne reflètent pas le caractère progressif typique de la maladie de Parkinson, nous dit-on. Alors, à quel point ces résultats que l'on fait sur des oiseaux sont transposables aux êtres humains? C'est la grande inconnue, bien évidemment. C'est probablement le prochain axe de recherche de l'équipe de l'Université d'Arizona, bien évidemment. Si une telle association entre le trouble de la parole et cette fameuse protéine se confirme chez les humains, eh bien les médecins auraient alors l'opportunité de prendre en charge les patients avant que la maladie ne soit trop avancée. C'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est que du coup ça peut donner une piste thérapeutique assez efficace. Bien évidemment, on n'en est qu'aux premiers essais, on n'est qu'au tout début de l'aventure, entre guillemets, et donc du coup on ne sait pas encore précisément ce vers quoi on va aller, mais les premiers signes de Parkinson pourraient s'entendre dans la voix et du coup ça permettrait de pouvoir avoir une prise en charge en amont beaucoup plus tôt. C'est ça qui est intéressant et important bien évidemment dans ce concept. Voilà, c'était un article qui avait été diffusé sur le site Futura il n'y a pas si longtemps, je crois que ça devait être fin avril, mais je voulais quand même l'évoquer dans cette émission parce que je trouve que c'était quelque chose d'assez intéressant. On revient sur les drones, je vous ai dit que c'était un petit peu le fil rouge de cette émission parce qu'il y a encore un autre article que j'ai trouvé sur ces drones pour faire évoluer des nuées de drones pour créer des animations lumineuses la nuit. Bien évidemment, on a tous vu ça. Tout ça, c'est une chose, mais pour pouvoir parvenir à les associer pour qu'ils puissent réaliser des tâches ensemble et de façon autonome, ça, c'en est une autre, bien évidemment. C'est l'autonomie qui est assez importante parce que celles qui travaillent les drones qui travaillent en essaim sont tous programmés, donc quelque part, ça fonctionne très bien. Mais si on souhaite les rendre autonomes et qu'il y ait une interaction entre eux, là, ça peut être intéressant. Lors d'une animation, les drones sont tous gérés par un ordinateur central qui vient leur donner des instructions pour contrôler leur trajectoire et la zone, bien sûr, où là, ils vont faire leur petite opération spectacle. Elle est totalement dénuée d'obstacles, bien évidemment. Donc, on a toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire un beau spectacle. Mais quelque part, la technologie dernière, derrière, elle est facile, entre guillemets. Mais si on veut donner de l'autonomie à chaque drone pour qu'il puisse gérer sa tâche en collaborant avec les autres drones, eh bien, ça nécessite une toute autre intelligence et cette intelligence, elle doit être embarquée sur le drone. Face à cette problématique, eh bien, il y a des chercheurs chinois de l'université de Hangzhou qui ont mené des expérimentations assez impressionnantes et leurs travaux ont été publiés dans la revue Science Robotics. Ils sont parvenus à faire évoluer un groupe de 10 drones dans une forêt assez dense et pour laquelle ils n'avaient programmé aucune donnée au préalable. Chaque drone devait avancer vers un point d'arrivée commun en évitant ses congénères et bien sûr les obstacles de l'environnement, donc notamment les arbres, bien sûr. Alors, ces drones, qui sont assez petits, sont de la taille de la paume de la main. Ils sont complètement bardés de capteurs et ils peuvent traiter de façon individuelle et partager en temps réel les données qu'ils collectent aux autres drones. Et donc, ils savent ainsi maintenir leur distance de sécurité pour éviter la collision en vol ou alors la collision avec les arbres ou des obstacles, bien sûr. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, avec l'ensemble de ces données qui sont collectées en temps réel, ils vont pouvoir élaborer des stratégies pour se faufiler afin d'optimiser le temps de vol entre deux points. C'est-à-dire que si tout le monde donne une information à tout le monde, ils vont pouvoir avoir quelque part une cartographie de l'environnement et trouver des trajectoires beaucoup plus simples, moins périlleuses, plus rapides, plus directes pour atteindre leur objectif. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont tous travailler ensemble pour arriver à l'objectif de façon plus efficace. Et donc du coup, si on combine cette intelligence individuelle et collective avec des systèmes de track d'une cible, bien évidemment, eh bien, ça devient des opérations de sauvetage ou ça devient des opérations d'attaque. En tout cas, on a des applications civiles et militaires qui peuvent être grandement améliorées avec ce dispositif de drones qui sont donc capables de chasser en essaim, on appelle ça un essaim de drones, même s'ils ne sont que 10 dans le cadre de cette expérience. Il y a des vidéos qui existent que je vous incite à consulter parce que c'est vrai que c'est visuellement assez intéressant à observer, bien évidemment. Mais c'est une technologie au niveau des drones. Alors, je crois que c'est tout ce que j'avais trouvé au niveau des articles sur les drones. Il y en a eu déjà 4 ou 5 là, dans cette émission. Mais on voit très bien que la technologie au niveau des drones est totalement performante depuis ces dernières années. On voit de plus en plus des choses qui se mettent en place avec comme objectif, ou en tout cas comme contrainte à lever, le fait qu'il soit léger, qu'il soit autonome, intelligent, qu'il puisse transporter des charges de plus en plus lourdes, qu'il puisse être autonome d'un point de vue, je dirais, au niveau de l'autonomie de la batterie, ou en tout cas du niveau de leur générateur d'énergie. Et donc tous ces éléments-là doivent être prises en considération pour pouvoir développer des technologies de drones de plus en plus performantes. Donc, c'est pour ça que ces articles-là montrent l'avancée de la technologie dans ce domaine et c'était assez intéressant de pouvoir faire un peu une compilation de tous ces sujets qui concernent les drones dans cette émission d'aujourd'hui. Allez, on va écouter. Il y a longtemps que je n'ai pas écouté Portishead sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouve juste après pour continuer à développer l'actualité scientifique. See a moment with you in a half-lit world. I'm frightened to believe I must try. If I stumble, if I fall, thank you.
dream to ask beyond the window. I feel this fear alone until we have.
Quel plaisir d'écouter Portishead sur l'antenne de Graphite avec Morning Airs. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, on va parler un petit peu de cette situation que nous avons connue depuis ce début du printemps, selon une étude publiée dans Earth Future par le Centre allemand de recherche environnementale. Aucune sécheresse aussi étendue et qui a duré aussi longtemps ne s'est produite en Europe depuis le début du XVIIIe siècle, donc depuis 250 ans. Les années 2018-2020 représentent une nouvelle référence en matière de sécheresse et un événement comme celui-ci a dorénavant plus de risques de se produire dans le futur en raison, bien sûr, du réchauffement climatique. Alors, les scientifiques allemands ont étudié les données historiques d'observation météo. Ils ont recréé celles qui manquaient avec des modèles climatique et du coup pour pouvoir un petit peu comparer la gravité de la sécheresse de cette période 2018-2020 à celle qui était déjà survenue dans le passé et en remontant donc jusqu'en 1766, donc on remonte à peu près 250 ans en arrière. Alors l'équipe a utilisé un dispositif spécial pour estimer la teneur en humidité du sol en fonction des observations de température et de précipitation du passé. La sécheresse en question a affecté environ un tiers des terres européennes sur la période donc qui va d'avril 2018 à décembre 2020, ce qui fait quand même 33 mois au total. Sur cette période, la sécheresse a réellement sévi 12 mois répartis en plusieurs fois. L'Europe centrale a été la zone la plus touchée, comme l'Allemagne, la République tchèque, mais aussi la France. Et donc, en comparaison, seule la sécheresse de 1857 à 1860 a dépassé cette durée, qui était de 35 mois au total, dont 13 mois de sécheresse répartis sur cette période, sans être aussi étendue et intense que la période beaucoup plus récente. La sécheresse donc récente a été accentuée par un facteur aggravant, c'est bien sûr la température de l'air. Cette température a atteint un niveau d'anomalie historique, 2,8 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même totalement faramineux. Les sécheresses du passé pouvaient être sévères, mais elles étaient plus froides que les sécheresses récentes. C'est ce que explique le docteur Rohini Kumar qui a travaillé sur cette étude. La chaleur a véritablement changé la donne ces dernières années. Les conséquences d'une sécheresse sont plus graves si, en plus du déficit de pluie, eh bien la chaleur s'en mêle. Les pertes par évaporation sont plus importantes, ce qui entraîne une baisse de l'humidité dans le sol. C'est ce qu'explique donc le scientifique. Alors les rendements agricoles, le blé, le maïs, l'orge, ont nettement diminué dans les pays touchés par cette sécheresse récente. 20 à 40% en moins dans les pays du Benelux, en Allemagne et en France. Mais cette sécheresse récente ne s'est pas subitement estompée. En 2020, si la situation des sols superficiels s'est améliorée grâce aux précipitations de l'hiver 2020, la partie plus profonde des sols, c'est-à-dire 2 mètres sous la surface, eh bien, tout cela a continué à souffrir de ce manque d'eau en 2021 et encore aujourd'hui en 2022. Sur les zones souffrant de la sécheresse depuis 4 ans, les précipitations ont en effet été copieuses l'année dernière, permettant aux activités agricoles de reprendre, mais cette humidité n'a pas réussi à pénétrer les couches les plus profondes du sol. Résultat, eh bien, le centre de recherche allemand insiste sur le fait que les États européens doivent se préparer à faire face à des sécheresses à nouveau extrêmes, comme celles que le continent connaît actuellement et qui seront des sécheresses durables. Pour preuve, les résultats de leur étude sur l'évolution des sécheresses du futur d'ici l'année 2100 expliquent dans un scénario avec un réchauffement climatique qui continue de s'aggraver que les sécheresses pourraient s'étendre sur 50% de l'Europe et elles pourraient durer plus de 100 mois. Alors 100 mois, ça fait quoi? Ça fait à peu près 7 ans, à peu près de sécheresse, dans le cas d'un scénario plus extrême, avec une accélération rapide du réchauffement, qui semble un scénario peut-être le plus plausible. Les sécheresses pourraient s'étendre sur 200 mois et couvrir 70% du territoire européen. Donc ce centre allemand alerte sur le fait que des mesures de prévention et d'adaptation doivent être mises en place au plus vite afin de limiter les conséquences au niveau de l'agriculture et de l'accès à l'eau. Prévoir bien sûr donc des réservoirs souterrains d'eau, investir dans des solutions d'irrigation intelligentes, développer des espèces végétales plus résistantes et par-dessus tout bien sûr développer une gestion de l'eau écologique et durable. Mais voilà, l'Europe donc a connu sa pire sécheresse depuis 250 ans et les prévisions semblent dire que ça va pas être une exception et ça va devenir de plus en plus la norme, bien sûr. Affaire à suivre, bien évidemment. C'est la fin de cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous retrouve samedi prochain. On continuera bien sûr à parler de l'actualité scientifique. Encore pas mal de sujets que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Ces émissions passent tellement vite, que voulez-vous. On se retrouve donc samedi prochain à 12h pour une nouvelle édition de cette émission. D'ici là, bien sûr, vous écoutez Graphite sur le 94.9. Sur la bande FM, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, bien sûr, mais aussi sur graphite.net, le site internet qui vous permet de récupérer tous les podcasts de cette émission, bien sûr. Alors, j'ai une petite annonce que je n'avais pas encore eu le temps de faire, c'est le ciné-club qui a lieu à Tourotte-Salle Saint-Gobain, et je trouve que le titre qui est proposé, le film qui est proposé, le titre est pas mal, le titre s'appelle Canicule, c'est mardi prochain, 7 juin, à 20h, à Tourotte-Salle Saint-Gobain, le ciné-club. Ciné-club, les informations au 03 44 90 61 26. Donc on vous propose Canicule mardi prochain à 20h à Tourotte. Et puis d'autres informations, bien sûr, sur la page Facebook de Graphite, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve samedi prochain et on va continuer, bien sûr, à parler science, technologie, médecine, tout ce qui nous concerne, bien évidemment. Bonne journée. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Au revoir, à bientôt.